Vous écoutez
RMC.
Il est 1h23 du matin, on est là jusqu'à 2h. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour qui est au stade à Miami. Écoutez Kylian Mbappé il y a quelques instants à la sortie du match.
Moi je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement nous on ne peut pas se permettre d'être humain. Je pense qu'on était complètement sonnés et je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines de mental qui font qu'on on a plus de sentiments. Et donc on a réussi à faire ce qu'on fait, de gagner cette deuxième mi-temps, mais au final on gagne pas. Et je pense que c'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui. Malheureusement, la première mi-temps, elle donne l'impression qu'on l'a laissé tomber. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire ressentir. Mais c'est comme ça, c'est le football. Nous, on veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait, parce que ce match-là va pas entacher la légende de Didier Deschamps.
S'il y a un point positif, parce qu'il y en a quand même un, c'est que vous devenez le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde ce soir. Alors, en tout cas pour les prochaines 24 heures, puisque vous devancez de Léo Messi d'un but, donc on va attendre la finale demain. Mais ça vous fait quoi en termes d'émotion et en termes d'objectifs personnels? Parce que c'est incroyable ce que vous faites.
Non, je l'ai dit, Léo il marque tout le temps. Demain il va marquer, c'est sûr. Moi j'essaye juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer. C'est sûr que quand tu marques autant de buts en Coupe du Monde, ça te fait évoluer dans certaines sphères. Mais voilà, j'aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer demain le match. Donc je pense que c'est bien pour tout ce qui est héritage et quand on va arrêter de se dire que j'ai été un de ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, c'est pas la première chose qui traverse mon esprit.
Merci Kylian.
Moi, j'aime pas son excuse initiale. Parce qu'on est sonné.
Vous avez parlé de l'humilité de,
non, mais on est
de Mobout, comme l'appellent ses coéquipiers.
On est sonné, on est humain. Non, Kylian, je suis désolé, on n'en a rien à cirer de ça. Je voudrais quand même leur rappeler que ce qu'ont subi les Anglais en termes de défaite face à l'Argentine, c'est bien plus dur que ce qu'ont subi les Français. Les Français n'ont pas existé, ils se sont fait manger tout cru, terminé, au revoir. Les Anglais, ils ont perdu à la dernière minute, enfin, ils étaient même dans le temps additionnel, ils se sont fait retourner le match dans les 10 dernières minutes. S'il y a une équipe qui devait être sonnée, s'il y a une équipe qui devait être dégoûtée et avoir envie de rentrer au pays et se mettre la tête dans le sac, c'est l'Angleterre, qui n'y arrive jamais, qui se prend tout le temps dans la gueule des fins de match hallucinantes, qui a tout le temps cette impression d'être maudite. Alors eux, ils sont arrivés, ils l'ont joué la première mi-temps, et en plus ils l'ont joué avec une équipe B. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas là. Bellingham n'a pas démarré, Kane n'a pas joué.
Alors, ce qui est bien, c'est que dans leur équipe B quand même, ils ont comme Elie, Rashford et Saka.
Oui.
Donc, ce qui est vrai que c'est pas mal.
Et Kylian il arrive, il dit ouais, on est humain, et donc la première fois on était sonné et tout. Non, je suis désolé, l'excuse elle marche pas.
Non,
l'excuse elle vaut pas.
Et j'en reviens.
Bon, je pense qu'il fallait qu'il trouve un truc.
Non, je n'accepte pas.
J'en reviens à cette gestion de l'émotion de l'entre-deux matchs, que j'ai détesté cette phrase en disant. Ce matin, j'entends encore des journalistes dire non, vraiment, les Bleus ne veulent pas jouer ce match. Vous savez, bah, effectivement, on a vu que les Bleus ne voulaient pas jouer ce match, alors que, je le répète, il y a plein de Bleus qui voulaient jouer ce match. Et si cette phrase était valable dans les 24 heures qu'on suivit la demi, là, dans ce cas-là, si t'es un staff normal, tu remets les mecs, même un peu, tu les secoues, comme vient de dire Daniel, en disant non, mais attendez, les gars, dans ce cas-là, dites-moi, mettez-vous à gauche ceux qui veulent absolument pas jouer, qui sont traumatisés, parce que maintenant, on va jouer au foot, il y a des mecs en face, il y a l'équipe d'Angleterre, il est hors de question qu'on prenne une danse.
Ah, puis même, rappelons quand même que les joueurs ont essayé de gratter une soirée libre il y a deux jours en arrivant à Miami, et qu'il a fallu que Deschamps refuse en disant non, on a un vrai match de Coupe du Monde. Lui, pour le coup,
oui,
il a été droit dans ses bottes sur l'importance du match.
La soirée libre, ça leur aura pas fait de mal. Je pense qu'il aurait dû le faire. Maintenant.
Ah, après, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit, Daniel, si ça avait été le cas et si on avait appris que les Français avaient été à l'envers 48 heures avant.
Je pense qu'il fallait le faire et jouer le match après. Parce que je le répète encore une fois, que nous ne soyons pas intéressés par ce match, nous lui accordons une importance toute relative, que dans l'histoire du foot, la petite finale, on s'en cague. Ok, toi, t'es joueur, à partir du moment où tu joues, en plus, t'avais 2-3 motifs pour le jouer, t'avais les remplaçants à faire jouer, t'avais. Les adieux de Deschamps, mine de rien. Quand t'as vécu 14 ans avec un mec, t'as le droit de lui offrir une belle sortie, et t'as surtout pas le droit de lui offrir une première période aussi catastrophique.
Daniel,
ça tu peux ne pas le faire.
Daniel, après t'as un truc aussi qui s'appelle le maillot. Je parle pas de l'équipe de France
aussi,
et du pays, parce qu'il y a des gens qui en ont plein la bouche. Mais même un maillot en général, quand tu portes même en club, si tu ne te sens pas de jouer, tu ne joues pas. Moi, je trouve qu'il y a eu démission. Et je pense quand même que là, dans l'analyse du match et du groupe, ce match-là, il n'est finalement pas inintéressant. Et effectivement, il y a des gars qui ont montré après l'inverse. Je reprends l'exemple d'Upamecano, parce que je trouve que dans l'impact à la fois défensif, dans l'impact de contre-attaquant. Je l'ai regardé à un moment donné monter, je crois que c'était sur Bellingham, il était rendu à 80 mètres de son but en mode pressing comme dans un, on va dire, vrai match. Je pense qu'effectivement il a montré que même dans un match comme ça, tu dois à peu près jouer comme ça. Qu'il y ait quelques replis défensifs qui se fassent pas, on l'a vu un peu des deux côtés, pourquoi pas, mais tu peux pas faire ça. Et pour revenir à l'équipe d'Angleterre, certes une équipe en plus modifiée, mais effectivement ce qu'ils ont fait en première période, c'était pas non plus en termes de course, il n'y avait pas non plus c'était un pressing de dingo.
Ils ont profité de la passivité et de l'humilité des Bleus. Hein.
C'était incroyablement faible du côté bleu parce que il y avait moyen.
Il y a trois buts encaissés qui sont grotesques d'ailleurs.
Ah, bien sûr. C'était du beurre.
Le but où Rashford s'y reprend à deux fois avant de donner à Saka qui a du mal à la mettre, c'est incroyable.
Ils sont quatre.
Ça, c'était fou de choisir.
Oui, c'était fou de choisir.
Tu l'aurais arrêté, toi. D'ailleurs, toi, tu serais peut-être pas resté comme Maignan qui, bizarrement. C'est bien comment il a deux fois moi, il est allé devant le sans revenir.
Moi c'est pas Gilbert, ouais. Moi c'est pas Maignan que j'en veux sur cette action. C'est les trois joueurs qui restent autour, deux sur la ligne et Olise qui s'en fout complètement et ils ont le temps de frapper trois fois que ça revient dans les pieds.
Regarde Saka, il a deux mètres de lui, il bouge pas pour aller sur lui, pour monter sur lui.
Ça c'est fin d'urban foot quand les mecs veulent arrêter de jouer et que les équipes ont été trop déséquilibrées.
Et Maignan, on l'a pas beaucoup vu dans cette Coupe du Monde parce que avant l'Espagne, il a pas eu grand chose à faire. Mais il y a des vraies questions sur Maignan. Moi, je sais pas, ce gars-là, une espèce d'image de mur infranchissable, de grand gardien, machin, depuis quelques années, parce que sur pénaux, il est très bon.
Mais rappelle-toi qu'en début de saison, Deschamps était prêt à ouvrir la porte à une concurrence si Chevalier s'imposait au PSG. L'avantage qu'a eu Maignan, c'est qu'il n'y a pas eu de concurrence.
Je ne trouve pas extraordinaire depuis pas mal de temps déjà, même avec Milan. Ouais. Et là, sur la Coupe du Monde, je ne trouve pas dingue, Maignan. Ouais.
Le vrai problème maintenant, c'est que
Chevalier
est un peu disparu.
Non, mais le vrai problème de cette histoire-là du gardien, c'est Chevalier, parce que comme le dit Jean-Louis, c'était l'élu. Or, derrière, c'est un peu plus compliqué. Moi, je peux te dire que c'est pas Samba qui va vous faire oublier Maignan.
Non.
Et pour l'instant, Risser, je l'ai pas trop peu vu au très haut niveau pour te dire qu'il est capable d'être à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres gardiens.
On va le voir en Ligue des Champions.
Mais malgré tout, c'est pas si simple que ça. Attention quand même, hein, dans le match d'aujourd'hui, je suis d'accord, moi, sur Maignan, il fait, depuis deux saisons, c'est plus compliqué. En revanche, ce soir, quand même, il y a quelques erreurs, mais il y a beaucoup de sauvetages.
Oui, il fait quelques
attention,
arrêts.
Attention. Hein.
Voilà. Au
milieu début, il en a sauvé. Et la frappe derrière le petit pont dont tu parlais, la frappe de Rashford qui va chercher là, qui était parti pour aller en lucarne, il va la chercher aussi. Donc bon, ça reste un bon gardien.
Allez, Mehdi là au 32-16. Mehdi, bonsoir.
Salut tout le monde.
Bon, tu relativises un peu le match parce que il n'avait pas d'enjeu ou t'es quand même énervé?
Alors oui, il n'avait pas d'enjeu, mais je suis énervé parce que ça reste l'équipe de France et même dans une rencontre, ça reste quand même une rencontre de Coupe du Monde, mais. Franchement, le constat, il est triste parce que je rappelle quand même un peu la temporalité. Si je vais faire mes trois points comme vous, je rappelle quand même qu'après la Suisse et le fiasco, cette défaite en 8e, on était quand même nombreux, les Français, à vouloir que des départs. Mais il avait cette légitimité d'être champion du monde en titre. Et je pense que c'était normal à ce moment-là qu'il puisse aller au Qatar. Ensuite, je pense que Deschamps, c'est son ego qui a eu raison de lui. Je pense qu'il perd la finale au tir au but. Il a du mal à partir comme ça. Il est obsédé par la victoire. Donc il prolonge grâce à son ami Le Gret. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il a vraiment tiré sur la corde et il aurait dû partir beaucoup plus tôt.
Et pour moi, il doit partir après la Suisse.
Oui, moi aussi. Mais l'ironie du sort, c'est que ce mec qui a fait un football défensif et restrictif, il finit par en prendre 6 sur son dernier match. C'est quand même assez drôle.
Et il sort finalement un peu de façon un peu triste. Alors factuellement, il n'y a rien à dire en termes de résultats. Bah, il va rester le plus grand sélectionneur de l'histoire du foot français. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quand on fera des émissions, des hommages dans 10 ans, qu'on parlera de ça, il y a un truc et c'est là à chaque fois. Et c'était pourtant lui. Ces principes de dire il y a que le résultat qui compte. On se souvient que des vainqueurs. Et nous, on a toujours dit que le foot, ça n'était pas que ça. Eh bien, le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus, de par les chiffres, ne sera pas le meilleur dans les cœurs. Pour les plus anciens, même comme nous, on préférera toujours Hidalgo. Pour d'autres gens, ce sera, j'en sais rien, Aimé Jacquet ou je ne sais qui. Mais Deschamps, il y aura toujours un problème. Ce gars-là qui veut se faire aimer depuis des années, qui voue un culte aux résultats, que ce soit par sa communication, par la façon dont il faisait jouer ses équipes, ce gars-là n'a pas réussi à se faire aimer. C'est fou, mais c'est comme ça.
Il y a quand même un truc, c'est si tu prends la série qui était avant lui, ils sont encore en dessous.
Ah ben bien sûr, largement.
Tu sors quand même de... Parce que Domenech, Blanc, Santini, enfin la succession des mecs qu'il y a eu récemment quand même.
Je ne vais pas te dire mieux, que c'est le plus grand de l'histoire du foot français. Je peux pas faire
meilleur. Mais Daniel, sur ce que tu dis, je pense quand même qu'il faut faire une séparation entre le grand public et les fans de foot. Je pense que pour le grand public, il est quand même dans les cœurs. Et il voit la récurrence, etc. Par contre, dans les débats de spécialistes, je te rejoins. Oui.
Après, sur Deschamps, j'ai bien...
Merci Mehdi au 32-16.
Ouais, merci Mehdi, salut à toi. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, le ressenti, ça a été assez posé. Mais sur Deschamps, moi je l'ai beaucoup critiqué, et Daniel a raison, il ne restera pas forcément dans le cœur des spécialistes, comme dit Jean-Louis. Mais il y a un truc très important, et pour ça je lui serais infiniment reconnaissant, c'est que on a quitté la période 2010, même s'il y avait effectivement Blanc jusqu'à 2012, et que derrière il a remis un respect de toute la France pour ce qu'est l'équipe de France.
Absolument. Ça, c'est vrai.
Et ça, je me suis posé cette question à froid, dans la journée, je me suis dit, mais qu'est-ce, parce que je l'ai beaucoup critiqué, on s'est ennuyé, j'en peux plus, là encore, je l'ai dit, il y a plein de choses qui me plaisaient pas, je voulais qu'il change les latéraux, je voulais, etc. Ok. Mais, quand je vois.
Tiens, il y a Adrien Rabiot qui est avec Arthur Perrault, on va l'écouter, les gars.
Bonsoir Adrien, merci beaucoup de prendre le temps de vous arrêter. Hier en conférence de presse, le sélectionneur parlait de devoir de briller sur cette petite finale. Comment vous expliquez ces attitudes presque totalement passives en première mi-temps de cette rencontre? Et est-ce que vous avez, pour certains, manqué à votre devoir?
Déjà c'est vrai que sur la première mi-temps, il a manqué d'envie, des grands discours depuis l'élimination pour fournir une première mi-temps comme ça, c'est... Sur la première mi-temps, c'est inadmissible des comportements qui doivent pas être vus, surtout quand on porte ce maillot. Et pour la suite, oui, il y a eu un autre visage en seconde période. Bien sûr, on s'est repris avec pas mal de changements. Et voilà, le match est perdu, bien évidemment, mais je pense qu'il faut mettre l'accent surtout sur le coach. Je pense que c'est le moment de le célébrer, de reconnaître le travail qu'il a fait et qu'il a fourni à la tête de l'équipe de France, là où il a replacé cette équipe, l'envie qu'il a redonné aux gens d'aimer aussi cette équipe. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir après ça, bien évidemment. Et on aurait aimé finir sur une victoire, mais voilà, surtout un grand hommage à notre coach parce qu'il a fait un grand boulot.
Plus que les changements,
qu'est-ce que tu as dit? C'est assez étonnant parce que finalement il revient
exactement.
Il écoutait l'after. Ouais.
Non, mais je suis content qu'il le dise parce que je pense qu'effectivement, après avec un peu de calme, et vu que nous, en tant que journalistes, encore plus que d'autres, on a vécu très très fort ces moments 2010, mais même 2012, tu te souviens, avec les soucis qu'il y a eu dans l'équipe de France.
C'était blanc. Hein.
Ouais, c'était blanc. Mais peu importe. En gros, on était arrivé à un état où les gens ne se moquaient de cette équipe-là, où au moins on avait honte parfois dans les débats. Et tu es où aujourd'hui avec une équipe où les gens sont fiers quand elle joue, où les gens ont envie de la soutenir, où il y a des débats effectivement sur le jeu, mais ça c'est notre rôle et c'est pas un problème. En revanche, d'avoir à ce point, on va dire, remis l'institution au centre du village, on va dire remis l'église au centre du village, remis l'institution debout, je trouve que là Deschamps y a participé, c'est propre, c'est carré,
fait,
c'est net.
Tu sais quel a été finalement son problème, parce que tout ce que tu dis c'est vrai, et je répète que ça reste le plus grand histoire du foot français, c'est qu'en fait il a fini par être lassant. Il nous a lassés parce qu'il est resté trop longtemps. Alors oui, le rêve de sortir par la grande porte avec la victoire là, sauf que ça se gagne pas facilement une Coupe du Monde. Et là, je suis en désaccord avec tous ceux qui disent et qui l'enfoncent beaucoup trop et qui disent ouais, il en a gagné qu'une. Et il en a gagné qu'une de quoi? Et les Allemands et les Italiens et les Brésiliens. Et en fait, qui a un meilleur palmarès que la France sur les 10-15 dernières années? Quand t'en gagnes une, c'est déjà beaucoup. C'est rare les grandes compétitions internationales. Et t'as de la concurrence. Donc ça, c'est un très mauvais procès qu'on lui fait parce que t'as gagné, t'as été finaliste, t'as été demi-finaliste, t'as été demi-finaliste de l'Euro. Les résultats, tu les as. Il y a pas de problème. C'est juste que c'est long. C'est long un mandat de 14 ans. Pour n'importe qui, pour un président à la tête d'un pays, pour un sélectionneur, à un moment, stop, tu finis par être lassant. Parce qu'en plus, t'avais un jeu qui a toujours été plutôt ennuyeux, t'étais restrictif.
Ça vaut pour nous trois, on est là depuis 20 ans, les mecs.
Mais nous, on fait pas le même métier.
Vous renouvelez beaucoup mieux, ça n'a rien à voir.
Nous, on fait pas le même métier.
Vous vous renouvelez mieux. Non, mais Daniel, sur ce que tu dis, sur le bilan, je pense qu'il y a deux trucs qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis d'accord avec toi, dire il a gagné qu'une fois, comme si on pouvait gagner tous les deux ans.
Ça, c'est un argument stupide.
Ça, j'aime pas non plus. Par contre, ce qu'il faut dire sur Deschamps, c'est que les deux fois où il aurait pu faire le virage du jeu offensif, c'est-à-dire Euro 2021 avec le trio Mbappé, Griezmann, Benzema,
oui,
et là avec les quatre attaquants,
il
a jamais réussi. Ça, il a jamais réussi. Quand la France était attendue comme favori et qu'elle se reposait sur le jeu offensif, ça n'a pas marché. Donc ça va malheureusement
parce que ça, il sait pas
lui
faire
coller
ça
à la
pour
peau.
Le coup, on peut le
voilà.
dire, il ne sait pas
exactement.
Faire.
Mais dans l'autre sens, il y a aussi ces matchs-là où on perd. Où il y a une espèce d'alerte enlèvement totale sur l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les matchs précédents et ce match-là où on se fait éliminer. Et il y en a eu plusieurs, hein. L'Espagne les deux fois, l'Argentine,
la vérité,
le Portugal
c'est que dans
en 2016.
Monde, t'as joué deux équipes qui sont dans le gratin mondial et t'as pris deux roustes, hein. Jean-Louis.
Ouais.
T'as joué deux équipes du gratin mondial, t'as pris deux roustes.
Et d'ailleurs, on en revient quand même.
Et ensuite, on écoute
à la formule de cette Coupe du Monde. Ça délaye tellement que avant de rencontrer le top, avant, tu mettais moins de temps avant de le rencontrer, puisque la compète était plus resserrée. Là, tu as eu du temps, des matchs contre des adversaires plus faibles. J'en veux d'ailleurs au Maroc, c'est pour ça que je l'avais dit à l'époque, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, donc ils n'ont même pas proposé l'adversité qu'on pouvait espérer du Maroc par rapport à leur début de compète. Donc tu as dû attendre la demi pour tomber contre une équipe injouable, enfin potentiellement injouable, pour t'apercevoir qu'effectivement, quand tu es dans le dernier carré, en gros, t'as pas le niveau. Et c'est dur.